à l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos. Peter Wohlleben grandit à Bonn en Allemagne et est très sensible à l'écologie. Engagé par l'État comme forestier, il abat massivement du bois pendant près de 20 ans. Écœuré, il démissionne et le village de Hümmel lui demande de s'occuper de la forêt communale de façon écologique, sans machines et sans insecticides. Il publie le best-seller « La vie secrète des arbres » chez Les Arènes, traduit de l'allemand par Corinne Treska. En voici un exemple de son écriture. Amitié. Il y a longtemps de cela, alors que je parcourais l'une des anciennes réserves de hêtres de mon district, de curieuses pierres moussues ont attiré mon attention. J'étais passé maintes fois à côté sans les remarquer, jusqu'à ce jour où je me suis arrêté et accroupi. Leur forme, en léger arc de cercle, était peu ordinaire. En soulevant un peu la mousse, je mis au jour de l'écorce. Ce que je croyais être des pierres était en fait du vieux bois. Le bois de hêtre pourrissant habituellement en l'espace de quelques années sur un sol humide, la dureté du morceau que j'examinais m'étonna. Surtout, je ne pouvais pas le soulever, il était solidement ancré dans le sol. Je grattai un petit morceau de cette écorce avec un canif et découvris une couche verte. Verte ? Cette couleur n'apparaît que lorsqu'il y a présence de chlorophylle, soit dans les feuilles fraîches, soit stockée sous forme de réserve dans les troncs des arbres vivants. Une seule explication était possible. Ce morceau de bois n'était pas mort. À y regarder de plus près, les autres pierres n'étaient pas disposées au hasard, mais formaient un cercle de 1,50 m de diamètre. Je me trouvais en présence des très anciens vestiges d'une immense souche d'arbres. Il ne subsistait que quelques fragments de ce qui avait jadis été l'écorce, tandis que l'intérieur s'était depuis longtemps décomposé et transformé en humus. Deux indices qui permettaient de conclure que l'arbre avait dû être coupé entre 400 et 500 ans auparavant. Mais comment était-il possible que des vestiges survivent aussi longtemps ? Les cellules se nourrissent de sucre, elles doivent respirer, se développer, ne serait-ce qu'un minimum. Or, sans feuilles, donc sans photosynthèse, c'est impossible. Aucun des êtres vivants de notre planète ne résiste à une privation de nourriture de plusieurs centaines d'années, et cela vaut aussi pour les vestiges d'arbres, du moins pour les souches, qui ne peuvent compter que sur elles-mêmes. À l'évidence, ce n'était pas le cas de celles-ci. Elles bénéficiaient de l'aide que les arbres voisins lui apportaient par l'intermédiaire des racines. La transmission des substances nutritives s'effectue soit de façon diffuse par le réseau de champignons qui enveloppe les pointes des racines et contribue ainsi aux échanges, soit par un lien racinaire direct. Je ne pouvais savoir quelle forme de transmission était ici à l'œuvre, car je ne voulais pas causer de dommages à cette vénérable souche en fouillant le sol. Mais une chose était sûre, les hêtres environnants lui diffusaient une solution de sucre pour la maintenir en vie. on peut observer cette association des arbres par leurs racines au bord des chemins. Là où la pluie a lessivé la terre des talus et mis au jour les systèmes racinaires. Des scientifiques ont constaté, dans le massif forestier du Harz, en Allemagne, que la plupart des individus d'une même espèce et d'un même peuplement sont reliés entre eux par un véritable réseau. L'échange de substances nutritives et l'intervention des arbres voisins en cas de besoin serait la norme. Il apparaît ainsi que les forêts sont des super-organismes, des organisations structurées comme le sont par exemple les fourmilières. Il est légitime de se demander si les racines des arbres ne se développent pas au hasard dans le sol et ne s'associent pas simplement avec les congénères rencontrés sur leur chemin. L'échange des substances nutritives ne serait pas intentionnel et la structure en communauté sociale serait un leurre, puisque seules des transmissions fortuites seraient à l'œuvre. La belle image d'une entraide active céderait la place à la loi du hasard, qui serait toutefois également d'intérêt pour l'écosystème forestier. Le fonctionnement de la nature n'est pas aussi simple. Les végétaux, par conséquent, les arbres, sont parfaitement capables de distinguer leurs racines de celles d'espèces différentes et même de celles d'autres individus de la même espèce. Mais pourquoi les arbres ont-ils un comportement social? Pourquoi partagent-ils leur nourriture avec des congénères et entretiennent-ils ainsi leur concurrents. Pour les mêmes raisons que dans les sociétés humaines, à plusieurs, la vie est plus facile. Un arbre n'est pas une forêt, il ne peut à lui seul créer des conditions climatiques équilibrées, il est livré sans défense au vent et à la pluie. À plusieurs, en revanche, les arbres forment un écosystème qui modère les températures extrêmes, froides ou chaudes, emmagasine de grandes quantités d'eau et augmente l'humidité atmosphérique. Dans un tel environnement, les arbres peuvent vivre en sécurité et connaître une grande longévité. Pour maintenir cet idéal, la communauté doit à tout prix perdurer. Si chaque individu ne s'occupait que de lui-même, nombre d'entre eux n'atteindraient jamais un grand âge. Les morts successives provoqueraient de grandes trouées dans la canopée, par lesquelles les tempêtes pourraient s'engouffrer et endommager la forêt. La chaleur estivale parviendrait au sol et le dessécherait. Tous les individus en souffriraient. Chaque arbre est donc utile à la communauté et mérite d'être maintenu en vie aussi longtemps que possible. Même les individus malades sont soutenus et approvisionnés en éléments nutritifs jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Une prochaine fois, peut-être les rôles s'inverseront-ils et ce sera l'arbre soutien qui, à son tour, aura besoin d'aide. Les gros êtres à l'écorce grise qui se protègent mutuellement, me font penser aux éléphants qui vivent en troupeau. Eux aussi défendent chacun des membres du groupe. Eux aussi aident les malades et les moins vaillants à reprendre de la vigueur et ne laissent qu'à regret leur mort derrière eux. Chaque arbre représente une part de la communauté, mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. La plupart des souches pourrissent et se transforment en humus en quelques décennies, un laps de temps très court pour un arbre. Les individus qui survivent plusieurs siècles comme ces pierres moussues ne sont que peu nombreux. Pourquoi une telle différence? Y aurait-il chez les arbres une société à deux vitesses? Le terme vitesse est impropre, mais l'idée est juste. En réalité, c'est du degré de lien, voire d'empathie, que dépend la serviabilité des collègues. Levez les yeux vers les houppiers, au sommet du tronc, et vous l'observerez par vous-même. Un arbre ordinaire s'étale jusqu'à ce que sa ramure rencontre l'extrémité des branches d'un voisin de même envergure. Il ne peut pas aller plus loin, car l'espace aérien, ou plutôt l'espace lumineux, est déjà occupé. Mais il met une belle énergie à renforcer ses branches latérales comme pour s'armer contre son voisin. En comparaison, deux véritables amis veillent d'emblée à ne pas déployer de trop grosses branches en direction de l'autre, pour ne pas empiéter sur le domaine du partenaire. Chacun développe son houppier exclusivement vers l'extérieur, vers des non-amis. Ces couples sont liés si intimement par leurs racines qu'ils meurent parfois en même temps. Les belles amitiés qui vont jusqu'à alimenter une souche en substances nutritives s'observent uniquement dans les forêts naturelles. Il est possible que toutes les espèces pratiquent le même altruisme, pas seulement les êtres. Pour ma part, j'ai rencontré de très anciennes souches encore vivantes, de chênes, de sapins, d'épicéas et de douglas. Les forêts plantées, comme le sont la plupart des forêts de conifères du centre de l'Europe, fonctionnent plutôt sur le schéma des enfants des rues dont nous parlerons plus loin.
Color FM 97.1.
Jussi Adler-Olsen, né à Copenhague au Danemark, est un des auteurs le plus en vue du polar nordique. Il vient de publier « Selfies » chez Albin Michel et traduit du danois par Caroline Berg. Ce polar a comme fond un subtil récit sur nos sociétés du profit et de la célébrité à tout prix. Passons au prologue. Samedi 18 novembre 1995. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle donnait des coups de pied dans les amas gluants de feuilles mortes. Elle savait seulement que ses bras nus étaient devenus glacés et que les cris venant de la maison résonnaient de tant de colère et de méchanceté qu'elle en avait mal dans la poitrine. Elle avait envie de pleurer, mais ça, c'était hors de question. « Tu vas avoir la figure toute ridée, Dorit », lui aurait dit sa mère qui aimait lui enseigner ce genre de conseils. Dorit contempla les larges sillons noirs qu'elle avait creusés dans les tas de feuilles recouvrant la pelouse et se remit à compter les fenêtres et les portes qui trouaient la façade. Elle en connaissait le nombre par cœur, mais c'était une bonne façon de passer le temps. Deux portes à double battant, 14 grandes fenêtres, 4 fenêtres étroites donnant sur le sous-sol, et si elle comptait toutes les vitres, elle arriverait au nombre de 142. « Je sais compter jusqu'à beaucoup », songea-t-elle, fière d'elle. Elle était la seule de sa classe à être capable de compter aussi loin. Elle entendit la porte du sous-sol de l'aile est grincer sur ses gonds, ce qui n'était pas bon signe. « Je m'en fiche, je ne rentrerai pas », murmura-t-elle pour elle-même en voyant la femme de chambre marcher dans sa direction. Le fond du jardin était envahi de buissons et de coins sombres où elle avait l'habitude de se cacher pour rester toute seule pendant des heures si nécessaire. Mais cette fois, la domestique la prit de vitesse et la main qu'elle referma sur son poignet était dure et sans appel. « Tu es complètement folle, Dorit. À quoi est-ce que tu penses? Te promener dehors avec tes jolis souliers? Madame Zimmermann sera très en colère en voyant que tu les as salis. Tu le sais pourtant. » Elle se tenait debout en chaussettes devant le canapé, mal à l'aise sous le regard des deux femmes qui avaient l'air de ne pas comprendre ce qu'elle faisait là. Sa grand-mère avait une expression glaciale, annonciatrice de tempête, et le visage de sa mère était larmoyant et hideux, aussi ridé que celui qu'elle prédisait à sa fille. « Pas maintenant, ma petite Dorit. Ta grand-mère et moi avons des choses à nous dire, » pleurnicha-t-elle. « Où est papa ? » demanda Dorit. Les deux femmes échangèrent un regard. Sa mère lui fit soudain penser à une petite souris apeurée, traquée dans l'angle d'un mur. Ce n'était pas la première fois qu'elle la voyait ainsi. « File dans la salle à manger, Dorit, » lui ordonna sa grand-mère. « Il y a une pile de magazines que tu pourras feuilleter. »« Où est papa ?» répéta Dorit. « Nous parlerons de cela plus tard. Il n'est plus là, » lui répondit sa grand-mère. Dorit, prudente, recula de quelques pas, les yeux fixés sur les mains de sa grand-mère. « Va-t'en, » disaient les mains. Elle aurait mieux fait de rester dans le jardin. Dans la salle à manger, on n'avait pas débarrassé les assiettes. Sur la grande table, un reste de gratin de chou-fleur et la sauce des paupiettes à demi-mangée figeaient dans le plat. Fourchettes et couteaux étaient posés à même la nappe que deux verres de cristal renversés avaient tachés de vin rouge. L'endroit n'était pas du tout comme d'habitude et Dorit n'eut pas envie d'y rester une seconde de plus. Elle se tourna vers les portes austères donnant sur le hall d'entrée et regarda leurs poignées usées. L'immense maison était divisée en plusieurs parties et Dorit croyait la connaître dans ses moindres recoins. Le premier étage était si imprégné du parfum de sa grand-mère qu'une odeur de poudre restait accrochée à ses vêtements quand elle rentrait chez elle. Là-haut, dans cet espace baigné de lumière, Dorit n'avait rien pour s'occuper. Elle ne se sentait vraiment bien que dans le coin le plus reculé du rez-de-chaussée. Les meubles et les rideaux, toujours fermés, y avaient une odeur sucre et sucrée de tabac qui n'existait dans aucun autre endroit qu'elle connût. Il y avait de grands fauteuils douillets dans lesquels on pouvait se blottir, les jambes repliées sous les fesses et des divans recouverts de velours brun à motifs avec des accoudoirs et des dossiers en bois noir sculpté. Cette partie de la maison était le domaine de son grand-père. Il y a une heure, avant la discussion qui avait éclaté entre son père et sa grand-mère, ils étaient tranquillement assis tous les cinq autour de la table du repas et Dorit se sentait enveloppée dans cette journée comme dans une grosse couette en plumes. Et puis son père avait dit une toute petite phrase qui avait fait lever un sourcil désapprobateur à sa grand-mère et sortir son grand-père de table. « C'est votre problème, » avait-il déclaré en tirant sur son pantalon en tergale avant de s'éclipser. C'est à ce moment-là qu'on l'avait envoyé jouer dans le jardin. Dorit poussa doucement la porte du cabinet de travail de son grand-père. Sur deux commodes en bois sombre, contre l'un des murs s'alignaient des boîtes à chaussures contenant des échantillons, et devant le mur opposé, le grand bureau de son grand-père était encombré de papiers surlignés au stylo rouge et bleu. La pièce plongée dans le noir sentait fort le tabac, bien que son grand-père ne s'y trouvât pas. On aurait dit que la fumée venait d'un angle du bureau, où un étroit ray de lumière passait entre deux bibliothèques pour venir couper en deux le dossier du fauteuil. Dorit s'avança pour voir d'où venait la lumière. C'était excitant car cet espace entre les deux bibliothèques révélait un pays encore inconnu. « Alors, ils sont enfin partis ?» grogna son grand-père quelque part derrière les rayonnages. Dorit se glissa dans l'ouverture et entra dans une pièce qu'elle n'avait jamais vue. Là, dans un vieux fauteuil à accoudoir, devant une longue table basse, elle découvrit son grand-père penché, avec attention, au-dessus de quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. « C'est toi, Rigmor ? » demanda-t-il de sa voix si particulière. Sa mère disait souvent, avec un peu d'agacement, qu'il n'avait jamais tout à fait réussi à perdre son accent allemand. Mais Dorit l'aimait bien. La décoration était très différente de celle du reste de la maison. Ici, les murs n'étaient pas nus, mais couverts de petites et de grandes photographies qui, quand on les regardait de plus près, représentaient toutes le même homme en uniforme, photographié dans différentes situations. Malgré les peignuages de fumée, la pièce paraissait plus claire que le bureau. Son grand-père avait l'air détendu. Ses manches étaient retroussées et elle remarqua les longues veines épaisses sillonnant ses avant-bras dénudés. Ses gestes étaient calmes et lents. Ses mains retournaient délicatement ce qu'elle les identifiait à présent comme des clichés en noir et blanc. Ses yeux étaient concentrés sur ce qu'il était en train de faire. Il avait l'air heureux et Dorit sourit. Mais quand l'instant d'après il se tourna brusquement vers elle, elle vit le sourire habituellement si doux de son grand-père se transformer en un rictus figé, comme s'il venait de manger quelque chose d'amer. « Dorit ? » s'exclama-t-il en faisant mine de se lever, écartant les mains au-dessus de la table, comme pour cacher ce qui s'y trouvait. « Pardon, Opa, je ne savais pas où aller. » Elle leva la tête vers les photographies exposées sur les murs. « Je trouve que le monsieur sur ces photos te ressemble. » Il la regarda longuement, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait répondre. Et finalement, il lui prit la main, la tira vers le fauteuil et la fit asseoir sur ses genoux. « À vrai dire, tu ne devrais pas être ici. Cet endroit est la pièce secrète d'Opa. Mais puisque tu es là, ainsi soit-il. » Il se tourna vers le mur. « Oui, tu as raison, Dorit, c'est bien moi sur ces photographies, du temps où j'étais jeune et où j'étais soldat dans l'armée allemande pendant la guerre. » Dorit hocha la tête. Il était beau en uniforme, casquette noire, veste noire et culotte de cheval noire. Tout était noir. La ceinture, les bottes, les gants. Seul l'insigne représentant une tête de mort et les dents blanches du sourire de son grand-père luisaient dans tout ce noir. « Tu as été soldat, Opa ?»«
Yavol !»«
Tu vois là-haut sur l'étagère, c'est mon pistolet. Un Parabellum. » 08, aussi appelé Luger, mon meilleur ami pendant de nombreuses années. Dorit leva les yeux écarquillés vers l'étagère. L'arme était gris anthracite et le holster marron. Il y avait aussi un étroit couteau dans un étui à côté d'un objet dont elle ne connaissait pas le nom, mais qui ressemblait à une batte de baseball, à part qu'il avait une sorte de boîte de conserve noire à une extrémité. « Il marche, ce pistolet ?»«
Bien sûr, petite Dorit, et il a servi très souvent. »
Couleur FM 97.1.
John Grisham, né dans l'Arkansas et avocat de profession, a publié 29 romans, dont certains adaptés à l'écran, par Sidney Pollack, entre autres. Il reste très concerné et aborde régulièrement les questions de racisme dans le sud rural des États-Unis. Entrons dans le vif du sujet en lisant le chapitre premier de son dernier livre, « L'informateur », paru chez Lattès, traduit de l'anglais par Dominique Defferre. La radio diffusait du soft jazz, un compromis. La scie, la propriétaire de la Prius et donc de l'autoradio, détestait le rap presque autant que Hugo, son passager, détestait la country. Il n'avait pu s'entendre sur rien, même en éliminant d'entrée le bluegrass. Causerie sur le sport, radio publique, vieux morceaux des années 1950, humoristes BBC, CNN, Opéra, ainsi qu'une centaine d'autres stations, rien ne leur convenait à tous les deux. Ils avaient fini par jeter l'éponge et accepter le jazz d'ascenseur. L'une par lassitude morale, l'autre par lassitude physique. Juste un fond sonore, comme ça Hugo pourrait dormir et elle ne pas être trop dérangée parce que le jazz, ce n'était vraiment pas son truc. Encore un petit arrangement. Depuis toutes ces années qu'ils faisaient équipe, chacun avait appris à mettre de l'eau dans son vin. Il dormait, elle conduisait, et tout le monde était content. Avant la crise économique, les membres du Board on Judicial Conduct, le service de l'inspection judiciaire, avaient à leur disposition des Honda, des berlines, avec quatre portes, peinture blanche et peu de kilomètres. Avec les restrictions budgétaires, cette petite flotte avait disparu. Lassie, Hugo, comme d'innombrables agents de la fonction publique en Floride, devaient désormais utiliser leur propre véhicule pour leur travail, dédommagé à 25 cents le kilomètre. Hugo, avec quatre enfants et un emprunt pachydermique, avait une Bronco antédiluvienne qui parvenait tout juste à le conduire au bureau. Ils avaient donc pris la Prius de Lassie et Hugo dormait sur le siège côté passager. Lassie appréciait le silence. Elle gérait la plupart des affaires toute seule, comme ses collègues. Les coupes de budget avaient décimé les effectifs. Et le BJC n'avait plus que 6 enquêteurs, 6 pour un État de 20 millions d'habitants, avec 1000 juges dans 600 tribunaux gérant 500 000 affaires par an. Lassie se félicitait que les magistrats, dans leur immense majorité, soient honnêtes, consciencieux, épris de justice et d'équité, car le petit nombre de pommes pourries l'occupait déjà 50 heures par semaine. Elle mit son clignotant et prit la sortie de l'autoroute. Quand elle s'arrêta au stop, Hugo se redressa comme s'il était réveillé depuis longtemps et prêt à l'action. « Où on est ? » demanda-t-il. « Bientôt arrivé, encore 20 minutes, et si tu te tournais pour ronfler côté fenêtre ?»« Pardon, je ronflais ?»« Tu ronfles toujours, du moins au dire de ta femme. » Pour ma défense, je faisais les 100 pas dans la maison à 3 heures du matin, avec le bébé dans les bras. Je crois que c'est une fille, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Qui ça?
Ta femme ou ton dernier gosse?
Très drôle.
Verna, sa charmante épouse, toujours enceinte, ne cachait pas les petits défauts de son mari. C'était sa façon de contrôler son égo, ce qui n'était pas une mince affaire. Dans une vie précédente, Hugo avait été une star de football au lycée, puis à l'université, le joueur le mieux coté de sa promo et le premier étudiant de sa première année à être titulaire dans l'équipe des Seminoles de Florida State. Il avait été ainsi un running back éblouissant, du moins pendant 3 matchs et demi, jusqu'à ce qu'il soit évacué du terrain sur une civière avec une vertèbre endommagée. Il s'était juré de revenir. Mais sa mère mit son veto. Il avait eu son diplôme avec les félicitations du jury et fait son droit. Ses jours de gloire étaient de l'histoire ancienne, mais il avait gardé son air fanfaron comme tous les ex-joueurs des championnats universitaires. C'était plus fort que lui.
20 minutes ?
Déjà ? Grogna-t-il. À vue de nez. Si tu veux, je peux te laisser dans la voiture avec le moteur pour que tu puisses dormir toute la journée.
Il roula sur le côté et ferma les yeux.
Ce que je veux, c'est une autre partenaire.
Bonne idée. Le souci, c'est que personne d'autre ne voudra de toi.
Quelqu'un avec une voiture plus confortable que cette boîte de conserve.
Mais qui ne consomme que 5 litres au 100.
Il grogna de nouveau, puis se rencogna dans son siège. Il se tourna d'un côté puis de l'autre, cherchant en vain une position. De guerre lasse, il se redressa.
« Avec qui on a un rendez-vous ? » ?»«
Je te l'ai déjà dit, quand on a quitté Tallahassee, juste avant que tu n'hibernes. »
« J'ai proposé de conduire, je te rappelle. »
« Oui, avec un seul œil ouvert. » Ça veut tout dire.
Comment va Pipine ?
Elle pleure beaucoup. D'ordinaire, et je parle d'expérience, quand un nouveau-né pleure, c'est pour une bonne raison. Manger, boire, caca, maman, ce que tu veux. Mais pas celle-là. Elle n'arrête pas de chouiner. 24 heures, 24 heures. Tu ne connais pas ton bonheur. je te rappelle que je m'en suis occupée à deux reprises. C'est vrai, et c'était une bénédiction. Tu pourras venir ce soir ?
Quand tu veux, c'est la numéro 4. La pilule, ça vous dit quelque chose ?
L'idée fait son chemin, et puisque tu abordes le sujet, toi, ta vie sexuelle,
c'est l'éclate ?
C'est bon, je me tais. À 36 ans, Lassie était célibataire et jolie. Et sa vie amoureuse devenait un grand sujet de curiosité au bureau. Il roulait vers l'est, direction l'océan Atlantique. Sainte-Augustine était à 15 kilomètres.
« Tu es déjà venue ici ?» demanda Hugo. Elle coupa la radio.
« Oui, il y a quelques années, on a passé une semaine avec mon copain dans un appart que nous avaient prêté des amis. »«
Une semaine de sexe ?»«
C'est une idée fixe, tu ne penses qu'à ça ?»«
Oui. » »«
Et pour info, Pipine n'a qu'un mois, ce qui veut dire qu'avec Verna, nous n'avons pas eu de relation normale depuis au moins 3 mois. Je maintiens qu'elle m'a jeté du lit 3 semaines trop tôt, mais Verna n'est pas de cet avis. De toute façon, je ne peux pas revenir en arrière et me rattraper. Alors ça commence à faire long, du moins de mon côté. 3 gosses et un bébé, ça te fout en l'air une vie de couple.
Si tu le dis, je ne le saurai jamais.
Il tenta de s'intéresser à la route pendant quelques kilomètres, mais ses paupières se firent trop lourdes et il s'endormit à nouveau. Elle lui jeta un coup d'œil avec un sourire. En 9 années au BJC, avec Hugo, ils avaient géré 10 d'affaires ensemble. Ils faisaient une bonne équipe et la confiance était mutuelle. Hugo savait de toute façon que le moindre écart de conduite de sa part, et il n'y en avait eu aucun jusqu'à présent, serait immédiatement rapporté à Verna. Lassie travaillait avec Hugo, mais cancanait et faisait du shopping avec son épouse. Sainte-Augustine était officiellement la plus vieille ville du pays, l'endroit même où Ponce de Léon avait accosté et commencé son exploration. Forte de son histoire, c'était une bourgade charmante, avec de vieux immeubles et des chênes vénérables festonnés de mousse espagnole. En entrant dans les faubourgs, la circulation se fit plus dense, les rues encombrées de cars de touristes. Au loin, sur la droite, les flèches d'une vieille cathédrale s'élevaient au-dessus des toits. Lassie s'en souvenait très bien. La semaine avec son petit ami avait été un désastre, mais elle gardait un bon souvenir de Sainte-Augustine. Un désastre parmi d'autres. Et qui est cette mystérieuse gorge profonde que nous sommes censés rencontrer ? Demanda Hugo en se frottant encore les yeux. Cette fois, il était déterminé à rester éveillé. « Je ne sais pas encore, mais son nom de code est Randy. »
« D'accord. Et tu peux me rappeler pourquoi on voit en secret un gars qui n'a pas encore déposé plainte contre l'un de nos honorables juges ?»«
Je n'ai pas la réponse, mais je lui ai parlé 2 ou 3 fois au téléphone et il dit que c'est sérieux. »«
Ben voyons. T'en as déjà vu qui disent le contraire ?
Je n'y suis pour rien, d'accord ? Michael a dit d'y aller, alors on y va. »
Michael était le directeur du service.
Michael Geismar, leur patron. Et aucune info sur cette supposée faute éthique. Si, Randy dit que c'était énorme.
Tu m'étonnes.
Couleur FM.
Ian McEwan quitte son Angleterre natale pour suivre son père militaire en Extrême-Orient, Afrique du Nord et Allemagne. Ian McEwan fait des études de littérature et s'aventure rapidement dans les domaines de la perversion, du fantasme et de l'interdit. Le Times l'inclut dans sa liste des 50 plus importants écrivains anglais depuis 1945. Yann vient de sortir « Dans une coque de noix », paru chez Gallimard et traduit de l'anglais par France Camus Pichon. Vite, entrons dans le vif du sujet. Me voici donc la tête en bas dans une femme, les bras patiemment croisés, attendant et me demandant à l'intérieur de qui je suis, dans quoi je me suis embarqué. Mes yeux se fermaient avec nostalgie au souvenir de l'époque où je dérivais dans mon enveloppe translucide, où je flottais rêveusement dans la bulle de mes pensées à travers mon océan privé, entre deux seaux périlleux au ralenti, heurtant doucement les limites transparentes de ma réclusion, la membrane révélatrice qui résonnait, tout en les atténuant, des voix de comploteurs unies par un projet ignoble. C'était au temps de ma jeunesse insouciante, là entièrement retournée, sans un centimètre à moi, les genoux repliés contre mon ventre, mes pensées comme ma tête sont bien engagées, je n'ai pas le choix. Mon oreille est plaquée jour et nuit contre ces parois sanguinolentes. J'écoute, je prends mentalement des notes et je suis troublée. Je distingue des confidences funestes sur l'oreiller et je suis terrifiée par ce qui m'attend, par ce à quoi je risque d'être mêlée. Je suis immergée dans des abstractions et seules leurs relations proliférantes créent l'illusion d'un monde connu. Quand j'entends bleu, que je n'ai jamais vu, j'imagine une sorte d'événement mental assez proche. De vert, que je n'ai jamais vu. Je me considère comme un innocent sur qui ne pèse ni allégeance ni obligation un esprit libre, malgré l'exiguïté de mon séjour. Personne pour me contredire ou me réprimander. Pas de nom ni d'ancienne adresse, pas de religion, de dette, d'ennemi. Sur mon agenda, s'il existait, ne serait noté que ma date de naissance à venir. Je suis où j'étais, contrairement à ce que disent aujourd'hui les généticiens, une ardoise vierge. Mais une ardoise glissante, poreuse, dont aucune salle de classe ni aucun toit de cottage n'aurait l'usage. Une ardoise qui se couvrirait elle-même de caractère jour après jour, à mesure qu'elle grandirait et deviendrait moins vierge. Je me considère comme un innocent, mais il semble que je sois mêlée à un complot. Ma mère, bénie soit son cœur à l'incessant bruit de pompe, semble impliqué. Semble. Mère? Non. Et tu l'es. Tu es impliqué. Je le sais depuis mon début. Laissez-moi l'évoquer, ce moment de création arrivé avec mon premier concept. Il y a longtemps, il y a des semaines, mon tube neural s'est refermé pour devenir ma colonne vertébrale et mes millions de jeunes neurones affairés comme des vers à soie ont filé et tissé avec leurs axones la somptueuse étoffe dorée de ma première idée, une notion si simple qu'elle m'échappe désormais en partie. Était-ce moi ? Trop complaisant. Était-ce maintenant dramatique à l'excès? Alors quelque chose d'antérieur aux deux, contenant les deux, un seul mot traduit par un soupir d'aise ou par l'extase de l'acceptation, de l'existence à l'état pur, quelque chose comme ceci. Trop précieux. Pour se rapprocher de mon idée, disons donc « être » ou à défaut sa variante conjuguée « est ». Telle était ma notion originaire, et voilà bien l'enjeu, ce « est ». Rien que ça, dans le même esprit que « es muss sein ». le début de la vie consciente représentait la fin de l'illusion du non-être et l'irruption du réel. Le triomphe du réalisme sur la magie, de est sur semble. Ma mère est impliquée dans un complot, donc je le suis moi aussi, encore que mon rôle soit peut-être de le déjouer. Ou bien, si j'arrive trop tard, comme le dindon de la farce, de me venger. Mais je ne me plains pas de mon sort. J'ai su d'emblée, quand j'ai déplié le drap d'or enveloppant le trésor de ma conscience, que j'aurais pu tomber plus mal, en des temps bien plus ingrats. Le tableau d'ensemble est déjà clair, en comparaison duquel mes soucis personnels sont négligeables, ou devraient l'être. Il y a tout lieu de se réjouir. J'hériterai de la modernité. Hygiène, vacances, anesthésie, lampe de bureau, orange l'hiver, et habiterai un coin privilégié de la planète, l'Europe de l'Ouest bien nourrie, épargnée par les épidémies. L'ancienne Europa, sclérosée, relativement bienveillante, tourmentée par ses fantômes, vulnérable à la tyrannie, peu sûre d'elle, destination préférée de millions de malheureux. Mon environnement immédiat ne sera pas l'aimable Norvège, mon premier choix, compte tenu de son gigantesque fonds souverain et de sa généreuse protection sociale, ni mon second choix, l'Italie, pour sa cuisine régionale et son délabrement inondé de soleil, ni même mon troisième, la France, pour son pinot noir et son égoïsme enjoué. À la place, je recevrai en héritage le royaume, pas franchement uni, d'une reine âgée mais estimée, ou un prince d'homme d'affaires connu pour ses bonnes œuvres, ses élixirs, essence de chou-fleur pour purifier le sang, et ses interventions anticonstitutionnelles attend impatiemment sa couronne. Telle sera ma demeure, et je m'en accommoderai. J'aurais pu naître en Corée du Nord où la succession est tout aussi incontestée, mais où la liberté et la nourriture manquent. Comment se fait-il que moi, pas même jeune ni même née d'hier, j'en sache si long, assez pour me tromper sur tant de choses? J'ai mes sources, j'écoute. Trudy, ma mère, quand elle n'est pas avec son ami Claude, aime la radio et préfère les paroles à la musique. Qui aurait prévu, à l'avènement d'Internet, l'engouement croissant pour la radio ou la renaissance de cette expression archaïque sans fil? Par-dessus les bruits de la vrille automatique de l'estomac et des intestins, j'entends les informations, source de tous les mauvais rêves. Mue par une pulsion autodestructrice, je tends l'oreille pour suivre analyse et débat, les bulletins répétés à l'heure juste, le rappel des titres toutes les demi-heures ne m'ennuie pas. Je tolère même BBC World Service et ses puérils coups de trompette et de xylophone entre les émissions. Au milieu d'une longue nuit calme, il m'arrive de donner un bon coup de pied à ma mère. Elle se réveille, cède à l'insomnie, prend la radio. Un divertissement cruel, certes, mais au matin, nous sommes tous deux mieux informés. Elle aime les conférences podcastées et les livres audio d'accomplissement personnel. Connaissance du vin en 15 chapitres, biographie de dramaturge du 17e et divers classiques de la littérature mondiale. L'Ulysse de James Joyce l'endort, alors qu'il me ravit. Les premiers temps, quand elle insérait ses écouteurs, j'entendais distinctement, grâce à la propagation efficace des ondes acoustiques à travers maxillaire, clavicule et le long de son squelette jusqu'au liquide amniotique nourricier. Même la télévision transmet par le son l'essentiel de sa maigre utilité. Et puis, quand ma mère et Claude se retrouvent, ils discutent à l'occasion de l'état du monde, d'ordinaire pour s'en affliger, alors même qu'ils conspirent à l'aggraver. Là où je suis logé, sans rien d'autre à faire qu'à croître par le corps et l'esprit, j'enregistre tout, même les fadaises qui sont nombreuses. Car Claude est homme à dire les choses plutôt deux fois qu'une, un spécialiste de la répétition, serrant la main d'un inconnu pour se présenter, je l'ai entendu à deux reprises, il lancera « Claude, comme Debussy ». Quelle erreur! Il n'est que Claude, le promoteur, qui ne compose rien, n'invente rien. Une pensée lui vient, il l'exprime à haute voix, puis elle lui revient, et pourquoi pas, il la répète. Pour que son plaisir soit complet, il doit refaire vibrer l'air avec la même pensée. Il sait que vous savez qu'il se répète. Ce qu'il ignore, c'est que vous appréciez moins que lui.
Vous écoutez Couleur FM.
David Mitchell, né en Angleterre, va vivre quelques années en Sicile et au Japon, où il enseigne l'anglais, pour revenir s'installer en Irlande. Cet auteur inclassable explore des univers variés de romans singuliers et ambitieux. Il vient de sortir « L'âme des horloges » aux éditions de l'Olivier, traduit de l'anglais par Manuel Berry. Découvrons-le. Vague de chaleur 1984. 30 juin. Je tire d'un coup les rideaux et malgré le ciel assoiffé et la Tamise gavée sur toute sa largeur de navires, de barques et de tout un tas de choses, je repense aux yeux chocolat de Vigny, à son dos ruisselant de mousse de shampoing, à ses épaules perlées de sueur et à son rire malin. Alors mon cœur s'emballe et je me dis « La vache, qu'est-ce que j'aurais aimé me réveiller chez Vinny à Peacock Street et pas dans ma chambre, à la con. » Hier soir, les mots sont sortis tout seuls. « Ah, tu sais, je t'aime vraiment, Vin. » Et Vinny, recrachant sa fumée, a pris la voix du prince Charles et répondu « Figurez-vous que moi-même j'adore passer du temps à vos côtés, Holly Sykes. » J'ai failli me pisser dessus tellement je riais, même si j'avoue que j'étais un peu vexée qu'il ne m'ait pas dit « Moi aussi, je t'aime » en retour. Mais bon, tous les magazines vous le diront, les garçons font toujours les clowns quand ils cherchent à cacher leurs sentiments. J'aimerais tellement pouvoir lui téléphoner, là, maintenant, si on pouvait inventer des téléphones qui nous permettaient d'appeler n'importe qui, n'importe quand, et depuis n'importe où. Blouson en cuir avec le Led Zeb clouté sur le dos, il doit être sur sa Norton, en route pour son travail à Rochester. En septembre, dès que j'aurai 16 ans, il m'emmènera faire une virée sur sa moto. En bas, quelqu'un claque la porte d'un placard. Maman, personne d'autre ne se permettrait de claquer une porte aussi fort. Imagine si elle a découvert, me nargue une petite voix. « Impossible. On a fait ultra gaffe, moi et Vinny. C'est sa ménopause à maman. Ça doit être ça. » Fear of Music, The Talking Heads, est sur ma platine. Je dépose le saphir sur le disque. Vinny me l'a acheté à notre deuxième rendez-vous du samedi au Magic Bus, le disquaire. Il est incroyable, cet album. J'adore Even et Memories Can't Wait. Mais le reste aussi tient carrément la route. Vinny a été à New York et les a vus sur scène. Son pote Dan, qui assurait la sécurité, l'a fait rentrer en coulisses après le concert. Et Vinny est resté avec David Bind et le reste du groupe. S'il y retourne l'année prochaine, il m'emmènera avec lui. En m'habillant, je découvre tous les suçons sur mon corps et je meurs d'envie de rejoindre Vinny ce soir, mais il doit déjà voir ses potes à Douvres. Les hommes n'aiment pas quand les femmes se montrent jalouses, alors je fais semblant de ne pas l'être. Ma meilleure amie Stella est partie à Londres. Elle espère dénicher des fringues aux puces de Camden. Quand maman a dit que j'étais encore trop jeune pour aller toute seule à Londres, Stella y est allée avec Ali Jessop. Ce que je vais faire de plus excitant aujourd'hui, c'est de passer l'aspirateur dans le pub, en échange de quoi j'aurai droit à mes 3 livres d'argent de poche. Super. Puis il faudra que je révise pour les contrôles de la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qui me retiendra de rendre copie blanche et de leur dire au bahut où ils peuvent se carrer le théorème de Pythagore. Sa majesté des mouches et le cycle de vie des vers. J'en serai capable de ça aussi. Ouais, je ne sais pas ce qui me retient. En bas dans la cuisine, niveau ambiance, c'est l'Antarctique. Bonjour, je leur dis, mais seul Jaco, assis dans le renfoncement de la fenêtre, lève les yeux de son dessin. Sharon est de l'autre côté, dans la partie salon, où elle regarde un dessin animé. Papa est au rez-de-chaussée dans l'entrée, où il cause avec le livreur. Dehors, le camion de la brasserie bougonne devant le pub. Maman coupe des pommes à cuire en petits cubes. Elle me fait la tronche. Je suis censée lui dire « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Plutôt mourir. Elle s'est sans doute aperçue que j'ai dépassé ma permission hier soir. Mais ce n'est pas moi qui vais aborder la question. Je verse du lait sur mes 8 Abix et porte mon bol jusqu'à la table. Maman claque le couvercle sur la casserole et me rejoint. « Alors, quelle est ton excuse ?»« Et bonjour à toi, maman. Il va encore faire chaud aujourd'hui. »« Qu'as-tu à dire pour ta défense, jeune fille ?» Dans le doute, feindre l'innocence. « De quoi tu parles exactement ?» Elle me lance son regard de serpent. « À quelle heure tu es rentrée ?»« C'est bon, d'accord, j'étais légèrement à la bourre. Pardon. » »« 2 heures de retard, je ne dirais pas légèrement à la bourre. Tu étais où ?»« Je prends le temps de mâcher mes 8 Abix. »« Chez Stella, pas vu l'heure filer. » »« Tiens donc !» Comme c'est bizarre. À 10 heures, j'ai appelé la mère de Stella pour essayer de savoir où tu étais. Et devine, elle m'a dit que tu étais partie avant 8 heures. Laquelle de vous deux je devrais croire, à ton avis? Holly? Toi ou elle? Et merde. Après, chez Stella, je suis allée marcher. Ah oui? De quel côté? J'affûte chacun de mes mots. Au bord de la Tamise. Là, contente? « Tu la remontais ou tu la redescendais ?» Je laisse un moment passer. « Qu'est-ce que ça peut faire ?» Dans le dessin animé, il y a une explosion. Maman s'adresse à ma sœur. « Éteins-moi ça et ferme la porte derrière toi, Sharon. »« C'est pas juste, c'est Holly qui se fait gronder, pas moi. »« Allez, file, Sharon, et toi aussi, Jaco. Tu pr... » Mais Jaco a déjà disparu. Une fois Sharon partie, maman reprend les hostilités. Et donc tu étais toute seule pendant cette soi-disant promenade. Pourquoi j'ai cette impression qu'elle cherche à me piéger? C'est ça. Et quelle distance t'a fait parcourir cette petite balade en solitaire, dis-moi? Quoi? En miles? En kilomètres? « Je ne sais pas, moi, peut-être que ta promenade t'a poussé jusqu'à Peacock Street chez un certain Vincent Costello. » Tout se met à tournoyer dans la cuisine. Par la fenêtre, sur la rive du côté de l'Essex, un minuscule bonhomme soulève son vélo et descend du ferry. « Alors, tu as perdu ta langue ? Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. » Hier soir, à 10 heures, tu fermais les volets de la fenêtre de devant et à part un t-shirt, tu n'avais pas grand-chose sur le dos. Oui, j'étais descendue chercher une bière pour Vinny. Oui, j'avais fermé les volets du salon. Et oui, quelqu'un était passé à ce moment-là. Du calme m'étais-je alors assuré. Quelles sont les chances qu'un inconnu me reconnaisse? Si maman s'imagine que je vais m'effondrer, elle peut toujours courir. Tu gâches ton talent dans ce pub, maman. Tu devrais bosser au service secret comme chef indique. Madame Kate Sykes me lance son regard de tueuse. Quel âge il a? Je croise les bras. C'est pas tes oignons. Maman plisse les yeux. 24, on m'a dit. Si tu sais pourquoi tu me demandes, parce qu'un type de 24 ans n'a pas le droit de fricoter avec une collégienne de 15 ans. Il pourrait se retrouver en prison. J'aurai 16 ans en septembre. Et puis la police a d'autres chats à fouetter, si tu veux mon avis. Je suis assez grande pour fréquenter qui je veux. Maman allume une de ses Marlboro rouges. Je meurs d'envie de lui en piquer une. Quand je vais raconter ça à ton père, il va lui flanquer une dérouillée à ton Costello. D'accord, papa sait mettre à la porte les types bourrés quand c'est nécessaire, comme tous les patrons de pub, mais il n'est pas du genre à flanquer des dérouillés à tour de bras. Brendan avait 15 ans quand il sortait avec Mandy Fry. Et si tu crois qu'il ne faisait que se tenir la main, tu te trompes. Pour autant que je me souvienne, il n'y a pas eu droit, lui, au coup de la prison. Elle articule exagérément, comme si j'étais débile. C'est un garçon, ça n'a rien à voir. Je riposte par un ricanement genre « C'est quoi cet argument pourri ?»« Je te préviens, Holly, si tu veux revoir ce vendeur de voitures, il faudra me passer sur le corps. »« Tu sais quoi, maman ? Je vais avec qui je veux. »« Bon, voilà comment ça va se passer. » Maman écrase sa clope. « Je te déposerai le matin au lycée avec la camionnette et je te ramènerai le soir. Plus question que tu sortes, sauf si tu es accompagné par moi, ton père, Brendan ou Ruth. Si jamais je vois ce salopard dans les parages, j'appellerai les flics et je porterai plainte. Compte sur moi. Et je téléphonerai, écoute-moi bien, je téléphonerai à son patron pour qu'à son boulot, tout le monde sache qu'il cavale après les mineurs. De grosses secondes s'écoulent, le temps que j'accuse le coup.